France Culture.
On ne se quitte pas sans un nouveau rendez-vous avec l'actualité de ce samedi 15 février. Et avec vous, Diane Berger, bonne journée.
Bonne journée Nicolas, bonne journée à toutes et tous. L'avenir de Kiev est-il entre les mains de Washington? Le président ukrainien a rencontré hier le numéro 2 des États-Unis, J.D. Vance, le vice-président américain, aux prises de position parfois proches ou du moins comparables à celles de Vladimir Poutine. Nouvelle journée de grande mobilisation en Serbie. Des milliers d'étudiants convergent vers la ville de Kragujevac pour dénoncer la corruption. Et puis un marathon de prises de parole diffusé en direct sur Internet pour sensibiliser le grand public au cancer pédiatrique. 2500 enfants sont concernés chaque année. Après 3 ans de guerre en Ukraine, quels sont les plans des États-Unis concernant le pays? Pour la première fois depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pu rencontrer hier une délégation américaine de haut rang. C'était à la conférence internationale de Munich sur la sécurité. Et dans cette délégation, le numéro 2 de l'administration américaine, J.D. Vance, le vice-président. Ce que l'on sait de leurs échanges avec Eric Bigala.
Une heure d'entretien et une bonne discussion, la première d'une longue série, ont abondé hier soir tant le vice-président américain que le président ukrainien. Pas d'autres détails n'ont filtré quant à la nature de cet entretien. Interrogé à l'issue pour savoir si les États-Unis poursuivraient leur discussion avec le maître du Kremlin au cas où Volodymyr Zelensky refusait de négocier avec la partie russe, J.D. Vance n'a pas vraiment répondu, ajoutant que les discussions avec les Ukrainiens devaient se poursuivre et qu'il fallait préserver toute option possible dans une négociation. Quelques heures avant de rencontrer le président ukrainien, J.D. Vance s'était lancé à Munich dans une longue diatribe contre l'Europe et ses valeurs libérales, le vice-président américain semblant épouser à toute force une idéologie populiste et nationaliste, à vrai dire assez proche de celle d'un Vladimir Poutine. Quant au président ukrainien, il avait déclaré pour sa part, avant de rencontrer J.D. Vance, qu'il accepterait de s'asseoir à une table de négociation avec Vladimir Poutine, une fois seulement qu'un plan de paix complet aura été dessiné en bonne intelligence et en accord avec les Américains et les Européens.
Eric Bigala, l'attitude américaine scrutée de près concernant un autre conflit au Proche-Orient. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio arrive en Israël ce soir. Il doit discuter avec ses alliés de la deuxième phase de l'accord de trêve à Gaza. Les négociations tardent à commencer et le cessez-le-feu s'est montré très fragile ces derniers jours. Malgré tout, 3 otages israéliens devraient être libérés dans les prochaines heures par le Hamas en échange de 369 prisonniers palestiniens. C'est une mobilisation qui ne faiblit pas. En Serbie, celle des étudiants contre la corruption, un mouvement entamé en novembre, soutenu par de nombreux secteurs du pays, les agriculteurs notamment. Après des rassemblements qui ont réuni des dizaines de milliers de jeunes à Belgrade ou encore à Novi Sad, une nouvelle manifestation géante est prévue aujourd'hui, cette fois à Kragujevac, la 4e ville du pays. Laurent Rouy.
Des étudiants étaient partis dans la semaine en cortège de 8 villes de Serbie pour rejoindre à pied Kragujevac, où ils sont arrivés hier soir sous les acclamations des habitants. La ville accueille une manifestation géante toute la journée. Les étudiants, qui restent discrets sur leur stratégie, semblent organiser un tour de Serbie de la contestation pour renforcer leur soutien auprès de la population. Dans toutes les petites communes où ils sont passés, les 8 cortèges ont été accueillis à bras ouverts, comme des libérateurs, selon une formule de plus en plus entendue dans la bouche des manifestants. La mobilisation contre la corruption atteint des niveaux jamais vus dans l'histoire des mouvements populaires en Serbie. Les protestataires réclament toujours justice après l'effondrement mortel de la gare de Novi Sad en novembre, qui avait fait 15 morts. Ils associent cet accident à la corruption généralisée qui caractérise le régime du président Aleksandar Vučić au pouvoir depuis 13 ans. De son côté, le président organise une contre-manifestation aujourd'hui dans le nord du pays. Il accuse toujours les protestataires de tenter d'organiser une révolution de couleur financée depuis l'étranger.
Laurent Rouy. François Bayrou rencontre en fin de matinée plusieurs victimes de Notre-Dame de Bétarame, l'institution privée du Béarn, au cœur d'une centaine de plaintes pour violences et agressions sexuelles. La pression politique, elle, ne faiblit pas. Les écologistes demandent l'ouverture d'une enquête parlementaire. La députée LFI Mathilde Panot annonce quant à elle avoir saisi la justice au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, celui qui prévoit que toute autorité constituée qui a connaissance d'un crime dans le cadre de ses fonctions doit le signaler. Elle accuse François Bayrou d'avoir eu connaissance des faits et de les avoir tués. Depuis hier soir, 21h, et jusqu'à ce soir, 23h59, 80 associations et chercheurs se relaient face à la caméra. Tous pour parler des 2500 enfants qui chaque année reçoivent un diagnostic de cancer. L'opération menée par le Réseau national de recherche sur les cancers des enfants et des jeunes, React for Kids, à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à ces maladies. Ce n'est pas le premier live caritatif de ce genre, cette méthode est de plus en plus populaire pour lever des fonds. Mais ici, Célia Gutti, le but c'est surtout de sensibiliser le grand public.
Plus que soutenir financièrement la recherche, l'objectif est d'ouvrir la parole sur un sujet qui est presque tabou. Le docteur Marie Caster, responsable du réseau 2500 voix et coordinatrice du live, le constate dans ses interventions de sensibilisation. L'association des mots « enfant » et « cancer » angoisse.
Ce sont deux mots qui, juxtaposés, font très peur aux adultes parce qu'on se dit effectivement que ça peut arriver à n'importe qui et donc à n'importe quel enfant et à n'importe quel jeune. Et de ce fait, la juxtaposition de ces mots fait peur parce qu'on se dit que ça peut arriver à tout le monde. Et du coup, comme souvent lorsqu'on a peur, on a tendance à avoir une stratégie de déni et d'évitement.
Le live permet aussi de mettre en lumière un sujet méconnu. Si un enfant sur 440 sera atteint de cancer avant ses 15 ans, la pathologie reste tout de même rare, selon le docteur Aurélie Guinaud, médecin oncopédiatre.
La réaction la plupart du temps des personnes, c'est « Ah bon, on peut avoir un cancer quand on est enfant, quand on est adolescent ?» Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que le cancer est un peu associé à l'âge.
Cette méconnaissance et ce déni influent sur l'accompagnement des jeunes malades et ex-malades. Deux tiers des survivants retournent à la vie sociale avec des séquelles qui doivent être pris en charge en milieu scolaire et au travail. Docteur Marie Castet.
Les problèmes de fatigabilité liés au traitement de chimiothérapie et de radiothérapie font que, par exemple, ils ont besoin d'avoir un temps de pause dans la journée pour pouvoir récupérer. Tout ça, si on ne communique pas sur ces cancers parce qu'on en a peur, c'est des choses dont on ne peut pas discuter, alors que ça fait aussi partie du soin qu'on se doit de prodiguer à ces enfants et à ces jeunes.
L'année dernière, le premier live stream de React for Kids a touché 10 000 spectateurs et 1 million de personnes sur les réseaux sociaux.
Un mot très rapide de la météo, le ciel est parfois nuageux mais sec et puis il fera très doux, parfois même chaud, plus d'une quinzaine de degrés sur le sud de la France.